stuk, een stuk. Ik de mesure piano van Echo. Encore une fois.
Surtout, c'est un homme de rencontre qui ne cesse d'être toujours à la rencontre de l'autre. Sa passion, c'est s'approcher des peintres, s'approcher des poètes, s'approcher de la musique, évidemment.
Et Dominique Lemonnier, alias Sol Ray, qui décrit ainsi l'invité de Continent Musique ce soir, Alain Planès. Bonsoir.
Bonsoir.
Alain Planès, l'infini turbulent, ça c'est le titre du film.
Oui.
Un pianiste qui vit entouré d'art, de peinture, de livres et de musique, hein, comme on le voyait dans ce film qui vous était consacré. Et puis surtout un musicien pour qui Debussy tient une part importante. Vient de paraître, de reparaître plutôt un coffret de vos enregistrements de toute l'œuvre pour piano de Debussy, ça c'est chez Harmonia Mundi. 1918-2018, Claude Debussy est mort il y a 100 ans tout juste, hein, on pourrait dire prélude à une commémoration. Vous donnerez prochainement 4 concerts récitals Debussy à l'auditorium, c'est juste à côté, l'auditorium de Radio France. Ajoutons le 25 mars avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça, ce sera pour la date anniversaire. Debussy, la musique du transport intérieur ou réel, hein, comme dans la mer. Au-delà des estampes japonaises et des toiles impressionnistes, vous faites entendre Alain Planès Debussy du côté des collines d'Anacapri ou dans les brouillards, ou bien du côté du Children's Corner. Bref, on essaiera de faire de cette émission une île joyeuse avec vous, Alain Planès.
Oh, très bien.
Allez, je vous laisse retrouver le piano et ce sera d'abord Rêverie, suivi de Pour l'Égyptienne, Alain Planès.
Thank you.
Alain Planès, dans les studios de France Culture, on aura l'occasion de vous entendre en concert à Paris du 9 au 11 mars à l'auditorium de Radio France, un 4 récitals au piano seul, et puis le 25 mars avec les musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France, pour trio, nocturne, sonate pour violoncelle et piano, et puis même une danse sacrée. Je signale pour le disque ce coffret de Debussy, l'œuvre pour piano, un 5 CD qui est édité, bien édité chez Harmonia Mundi. Alain Planès, un mot sur ce que l'on vient d'entendre. Rêverie, c'est tout indiqué, c'est un titre très, très debussien. C'est une composition de 1890.
Oui.
Alors il ne faut pas confondre, parce qu'il y a une mélodie aussi de 1880 qui est sur un poème de Théodore de Banville. Oui. Quand on travaille à l'œuvre d'un compositeur, il faut se plonger dans sa vie, se documenter. Depuis des années, vous jouez Debussy. Alors comment se documente-t-on ? J'imagine que vous avez fait une fois peut-être le pèlerinage à la maison-musée de Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que vous êtes attentif aux documents originaux et aux partitions notamment ?
Ah, tout à fait. C'est même ma passion, parce que je crois que on peut apprendre des choses très intéressantes des partitions, des esquisses particulièrement. Malheureusement, dans le cas de Debussy, je pense qu'il n'a pas voulu que des milliers de musicologues viennent décortiquer son œuvre. Donc, il a tout brûlé. Il a brûlé toutes ses esquisses. Alors, les seules qui restent sont les esquisses des études, sa dernière œuvre quasiment, qui sont à l'abbaye de Royaumont, dans la bibliothèque François Lang.
Et est-ce qu'on y voit des repentirs ?
Alors, on y voit des repentirs. Oui, j'y ai même trouvé une faute énorme dans une des études, avant que l'édition correcte, enfin nouvellement de François Lussure, la nouvelle édition critique, paraisse. Donc j'étais très fier de cette découverte. Et si je n'avais pas été curieux d'aller examiner ces esquisses, je n'aurais peut-être pas découvert cette faute qui était dans la...
Mais qu'est-ce que c'est cette faute de Debussy ?
Oh, c'était un dièse à la place d'un bécard. Vous savez, les compositeurs écrivent aussi des fois des fautes dans leurs manuscrits. C'est ça qui est intéressant. Même Ravel, par exemple, il y a des fautes de métrique, de solfège, en somme. Et dans Debussy aussi. Je sais que quand cette nouvelle édition critique a sorti les préludes, les deux musicologues, qui étaient Roy Howatt et Claude Elfer, se sont bagarrés pendant 6 mois pour un double point qui manquait dans un des préludes. Et à la fin, c'est Boulez qui a dit, écoutez, ça suffit, maintenant vous devez choisir.
Est-ce qu'il y a des particularités dans la notation des partitions de Debussy ? Parce qu'il y a des compositeurs parfois qui inventent des choses qui en reviennent à des signes médiévaux presque, pour parler de silence.
Ben, vous faites un rapprochement que je trouve intéressant, parce que vous savez très bien l'amitié presque inébranlable qui a eu cours entre Eric Satie et Debussy. Et le titre de Nous n'irons plus au bois parce qu'il fait un temps épouvantable, c'est du Satie déjà. C'est le Satie qui met des indications dadaïstes ou poétiques ou très intrigantes dans ses partitions. On a l'impression que Debussy marche un peu sur ses traces dans ses images oubliées, en effet, avec une pointe d'humour qui le caractérise.
L'œuvre pour piano de Debussy, ce sont 87 pièces pour piano seul. Il y a les 24 préludes, 12 études, des suites bergamasques, les estampes, les images. Est-ce que vous vous souvenez des premières pièces que vous avez jouées de Debussy ? J'imagine que c'était jeune, enfant.
Oui, en effet. J'ai joué d'abord la première arabesque quand j'avais, je ne sais plus, 7 ou 8 ans. Mais à 10 ans, mon professeur au Conservatoire de Lyon m'a fait jouer les Children's Corner. Et ça a été la révélation debussiste pour moi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, cette musique me touchait énormément. Je l'ai toujours aimée et travaillée après.
Dans certaines pièces, c'était dédié à sa fille Chouchou.
Chouchou, oui, le cycle est dédié à Chouchou, tout à fait.
Alors, trop facile à jouer pour un adulte, mais trop difficile pour un enfant ?
Bah, trop difficile pour un enfant et un adulte aussi, hein. Parce que ça requiert l'alchimie sonore de cette musique. Par exemple, le Snow is Dancing, c'est un morceau qui est extrêmement difficile techniquement, qui n'a pas l'air parce qu'il est extrêmement, il est suspendu comme ça dans l'air, mais ça requiert une égalité de toucher, un contrôle du toucher qui est vraiment extrêmement virtuose.
Dans ce que vous avez enregistré, Alain Planès, au long de votre carrière, il y a surtout Haydn, Chopin, Bartok,
Schubert.
mais Schubert aussi, bien sûr. Quelle place tient Debussy dans votre vie de musicien? Il y a 30 ans déjà, je crois que c'était en 88, hein, vous avez enregistré les préludes qui vous avaient valu une victoire de la musique, d'ailleurs.
Oui, la première, du reste, des victoires de la musique. Bah, je crois qu'elle est, très importante, elle est même primordiale. Enfin, je pense que Debussy, c'est un compositeur qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, comme un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique, toute époque. Dans un siècle, il y a très très peu de génies comme ça. Son œuvre est encore, pour certaines personnes, un peu difficile d'accès. Alors que quand même toutes ces harmonies extraordinaires qu'il a inventées, qui penchent un peu des fois vers le jazz déjà, c'est un peu l'inventeur de l'harmonie du jazz, hein. Tout ça peut encore paraître un peu trop moderne. Par exemple, le dernier cycle, les 12 études, ce sont des œuvres qui pour un certain, je les ai jouées bien sûr, et certaines personnes ont dit oui, mais alors c'est quand même très abstrait, c'est très l'est d'une certaine façon, parce que ça ouvre l'horizon pianistique des générations futures, des autres Boulez qui suivront Messiaen, ont tous été extrêmement influencés par les études de Debussy, les ont analysés. À Darmstadt, Boulez a fait une analyse complète de ses études, ce qui prouve que, aussi bien au niveau sonore et formel, ces œuvres sont importantes.
J'avais toujours une passion pour Debussy, et j'avais présenté à un concours, un examen, la toccata. Ma mère était naturellement dans la petite loge, dans la petite boîte derrière, parce que quand je jouais, elle était comme toutes les mères, vous voyez. Je joue la toccata. Et après, l'avoir fini, Forêt m'appelle. Il me dit, Monsieur Février, il y a combien de sonates de Beethoven? J'étais tellement ému, bafouillé, je lui ai répondu 17 ou 18, c'est pas ce que j'ai répondu. Eh bien, Monsieur Février, au lieu de jouer du Debussy, vous feriez mieux de travailler les sonates de Beethoven. Je vais mieux vous dire que je crois que si j'avais joué du Forêt, il ne m'aurait pas dit ça. Parce que, une phrase terrible, que je me souviens maintenant, un grand dîner chez ma grand-mère, Forêt se plaignait, disait « Oh, la jeune génération n'a pas d'enthousiasme, nous avions Wagner et nous étions fous. » Et mon père de lui répondre « Mais maître, nous avons Debussy. » Ça a été fini, le rapport. C'était c'était ce qui s'appelle une gaffe.
Voilà ce que Madame Debussy me faisait faire. Allez, allez, me disait-elle. Eh bien, c'est de toute cette petite répétition devant elle qu'elle m'a ouvert les portes pour le rubato de Debussy. Je n'oublierai jamais l'après-midi que j'avais passé chez elle quand j'avais joué ça.
Alors, la planesse, on entendait là, c'était les danseuses de Delphes, oui. Le premier des préludes de Claude Debussy. Et la voix de Jacques Février, c'était sur France Culture en 1977 par Myriam Soumagnac.
Ça me touche beaucoup parce que, bon, d'abord de réentendre sa voix. Et c'est vrai que maintenant, avec cette histoire de Forêt, je comprends la haine qu'il avait de la musique de Forêt. Et alors, quand je prenais des cours, je sais que plusieurs fois, il a eu des mots assez durs sur... moi, j'adorais la ballade de Forêt à l'époque, qui est quand même un chef-d'œuvre, je trouve, de la musique. Et alors, ça le mettait dans tous ses états.
Le Requiem non plus, enfin rien de...
Oui, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, les pièces de piano de Forêt et sa musique de chambre, c'était pas du tout sa tasse de thé.
Qu'est-ce que vous entendez dans l'exemple qu'il donnait au piano de cette transmission par sa femme, Emma Debussy?
Eh bien, alors, justement, tradition, trahison. Parce que quand on écoute Debussy jouer ce prélude, il ne fait absolument pas ce qu'elle recommande. Il le joue d'une façon très, presque statique, granitique, comme des statues, comme sont ces statues de Delphes. Mais peut-être elle avait ses raisons de le dire et qu'elle l'avait entendu soit recommander cette façon à certains pianistes qui venaient pour jouer ses œuvres, qui venaient chez lui.
On l'entend en tout cas, Claude Debussy ne faisait pas de son temps déjà l'unanimité parmi les musiciens. On va faire un petit peu d'histoire ou de biographie. Claude Debussy, dit parfois Claude de France, né en 1862, mort en 1918. C'est vraiment à la charnière de la modernité. Hein. Boulez disait la musique moderne va s'ouvrir après l'après-midi d'un faune.
Bah oui.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans la personnalité, dans la vie du compositeur qui était fou de littérature, hein, il adapte Baudelaire, je crois que c'est le premier à adapter Verlaine et Mallarmé, avant que d'autres ne le fassent, et puis très attentif à tout ce qui lui est étranger, c'est-à-dire qu'il se passionne pour les gammes lambalinées, pour les musiques russes, il gagne peu d'argent, mais parce qu'il est d'origine très modeste, il aura toute sa vie des difficultés pécuniaires importantes.
Il tire le diable par la queue toute sa vie, il est toujours endetté auprès de ses éditeurs, il demande des avances.
Et quand il a un peu d'argent, il préfère s'acheter une œuvre d'art.
Oui, absolument. Quand il était jeune et qu'il n'avait pas du tout d'argent, puisque il était très modeste, alors il paraît que quand ils allaient avec ses amis, ils sortaient du conservatoire, ils allaient dans une pâtisserie assez connue, près de Villiers. Et alors, ils choisissaient toujours le gâteau le plus cher, aux grandes dames de ses copains, qui eux disaient, mais comment tu fais pour t'acheter ce gâteau-là? Et donc, je pense que c'est un épicurien, c'était un esthète. Il était intéressé, il était sensible à évidemment toutes sortes d'autres, un cadre beaucoup plus grand que pouvaient être les compositeurs à son époque, comme Fauré, Saint-Saëns, qui étaient quand même dans un cadre plus restreint d'influence, de connaissances.
Sur l'influence de Debussy ou sur la réception de sa musique au moment où il compose de son vivant, est-ce qu'il faut y voir une sorte de, on a parlé d'une poésie de l'intuition, hein, cet art d'évoquer et de suggérer au lieu de raconter et de dire, hein, c'est ce qu'écrivait Maurice Denis à propos de Péléas. Il y a quelque chose aussi qui a peut-être pu mettre un peu mal à l'aise certains auditeurs et notamment à l'étranger, hein, des pièces comme Brouillard ou Feuilles mortes qui sont très abstraite.
Je crois que ce qui mettait surtout mal à l'aise, c'était l'harmonie de Debussy, toutes ces nouvelles, son utilisation de la gamme par ton que personne n'avait utilisé avant et développé à un tel point, sa richesse harmonique extraordinaire, tous ces accords qu'il a inventés. Il y a une histoire assez célèbre, je crois que c'est un de ses amis de conservatoire, j'ai oublié comment il s'appelle, et il décrit que quand à la classe de composition, avant que le professeur arrive, Debussy se mettait au piano et commençait à improviser des harmonies tellement étranges et tout ça que même le gardien, parce qu'il y avait toujours un surveillant, commençait à dire mais arrêtez, c'est scandaleux. Et donc il était déjà dans des recherches révolutionnaires au niveau de l'harmonie et de la musique.
Madame Planès, vous nous parlez de Debussy au piano, on va l'écouter puisque vous êtes venu, vous avez apporté un 33 tours, justement Debussy au piano, et c'est la danse de Puck.
C'est qu'il joue très très vite, on sent qu'il est un petit peu nerveux d'avoir, comme moi j'étais un peu tout à l'heure, pour mon piano et le micro. Même dans les Childress Corner, il indique des tempos plus lents et lui prend des tempos très rapides. Mais c'est extraordinaire déjà de sonorité.
La danse de Puck par Claude Debussy lui-même. Comment est-ce qu'il faut prendre ces enregistrements qui datent de, je crois, 1912?
Oui.
C'est pas en fait tout à fait un enregistrement sonore puisque c'est un rouleau mécanique.
Oui. Alors c'était un procédé qui s'appelait Waldtemignon, qui avait été inventé en Allemagne, et donc c'était un piano sur lequel on avait installé une mécanique avec des rouleaux et un système pneumatique qui fait que quand l'artiste enregistrait, jouait le morceau, il était imprimé sur ce rouleau et le piano pouvait le rejouer. C'était un piano mécanique, en somme. Et donc, on pouvait rejouer. Alors, le problème, c'est que souvent, quand on écoute Debussy dans ses enregistrements, on trouve que ses tempi sont souvent rapides par rapport à ce qu'il a indiqué comme tempo. Par exemple, dans les Children's Corner, la sérénade à la poupée, qui est marquée Allegretto, Manon Troppo, il joue ça très très vite. Alors, est-ce qu'il était nerveux? Je pense comme il ne jouait pas jamais, il jouait très peu en public, et je pense qu'il était trop occupé par la composition, pour travailler son piano, donc peut-être il était un petit peu plus nerveux. Il y a un autre problème, c'est que ces pianos, on pouvait régler la vitesse de déroulement. Certains modèles, on pouvait régler la vitesse de déroulement du rouleau, donc ce qui fait que ça peut être accéléré. Alors c'est le petit doute qui reste par rapport à cette technologie, mais néanmoins elle respecte. Je pense que Debussy, qui était un homme d'une exigence monstrueuse, aurait jamais accepté d'enregistrer s'il n'avait pas eu la preuve que ce qu'il enregistrait c'était fidèle.
À propos du rapport du musicien à l'instrument, je voudrais vous faire entendre la question que posait Véronique Sauger à Didier Lockwood.
Qu'est-ce que tu cherches en premier quand tu travailles? C'est un son, un rythme?
C'est la sensation. Quand je travaille, je voudrais que mon instrument fasse partie de moi-même. Je voudrais que ça soit une prolongation. Et que, pour moi, le plus beau jour de ma vie sera certainement le jour où j'aurai vaincu ces problèmes que pose ce corps étranger, et que ça ne sera plus un corps étranger, et que ça sera vraiment en adéquation complète avec ma sensation physique.
Bah, tout est dit, hein.
Le violoniste Didier Lockwood, oui, disparu le 10 février dernier. Le musicien, c'est un pianiste, mais un pianiste, c'est d'abord un corps.
Oui, mais alors, lui, il parle de son instrument, le violon, qui est quand même un instrument qui vous oblige à des contorsions qui ne sont pas du tout naturelles. Alors, c'est vrai que c'est la même chose pour tout instrument, c'est-à-dire que la technique, le travail technique doit nous permettre d'effacer tout ce qui nous empêche de faire corps avec l'instrument, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, qu'il n'y ait plus de problèmes techniques qui vous empêchent d'appuyer votre doigt et puis de faire sortir le son que vous avez entendu dans votre tête avant.
Tout à l'heure, Alain Planès, je vous ai présenté comme un pianiste, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire claviériste?
Ben, j'utilise ce terme beaucoup parce que c'est vrai que j'ai étudié l'orgue, j'ai été organiste dans ma jeunesse, dans mon village. J'adore le clavecin. Maintenant, je me suis mis au fortepiano. J'ai toujours été intéressé par les instruments anciens et différents.
Par exemple, pour enregistrer les préludes de Debussy, vous aviez tenu à jouer sur un Bechstein de 1897.
Hein. Oui.
Donc c'est des pianos qui sont plus fragiles. Qu'est-ce qu'on en obtient?
Ce sont des pianos qui d'abord avaient peut-être moins de puissance que nos Steinway modernes, puisque on est maintenant dans le règne du toujours plus fort. Donc, et ces pianos, c'est tout le contraire. Les Bechstein avaient une sonorité veloutée et qui correspond justement à la musique de Debussy, qui disait toujours qu'il fallait qu'on oublie que le piano est des marteaux. Donc, et ce piano, je l'ai découvert au Festival de Saintes chez Philippe Hervaig, et j'ai donc décidé j'avais fait un récital de Debussy dessus, et après j'ai eu envie d'enregistrer sur cet instrument.
Une autre question à propos toujours de la vie, de la biographie de Debussy. On sait sa détestation des concours, ça vous fait un point commun avec lui. Il gardait un très mauvais souvenir du prix de Rome à cause des thèmes imposés, des exercices, c'est très contraignant. Mais quand même, à Rome, au moment où il est à la Villa Médicis, il assiste en 1886 à un concert de Liszt, qui est vraiment l'immense star du piano de l'époque, compositeur mais surtout interprète, très grand pianiste, qui joue au bord d'une source. sources. Et puis, il va même dîner un peu plus tard. Il aura l'occasion même de jouer devant Liszt.
Il joue pour Liszt les valses romantiques de Chabrier avec Paul Vidal, un de ses collègues du Prix de Rome.
Et des années plus tard, Debussy se souvient encore de l'usage de la pédale chez Liszt.
Oui. Alors, là, vous touchez un des sujets principaux pour interpréter la musique de Debussy, c'est l'art de la pédale forte et des deux pédales en même temps, de la sourdine et les mélanges. Et c'est un art qui est extrêmement sophistiqué. Et je dois dire que Jacques Février, mon professeur, qui avait quand même élève lui-même de Ricardo Vignès, qui était donc l'interprète, un créateur de plusieurs œuvres de Debussy, lui m'a enseigné comment utiliser la pédale, c'est-à-dire à des niveaux différents pour qu'il y ait des résonances différentes par rapport au texte, par rapport à l'écriture pianistique. Et Durand, l'éditeur de Debussy, se plaignait. Du reste, dans les œuvres un peu tardives, dans les images, il y a une ou deux indications de pédale. Et Durand lui avait demandé, lui a dit « mais quand même, il faudrait indiquer... que ce soit plus net », et Debussy avait rétorqué, vous savez, c'est tellement sophistiqué, l'art de la pédale dans ma musique, qu'on n'a pas la grammaire pour l'écrire.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Quelle est votre devise favorite?
J'en ai une. Conveniam nomina rebus faxo.
Ah, c'est ce qui est à la fin de votre encyclopédie?
Oui.
Et ça signifie?
Je ferai que leurs noms conviennent aux choses. C'est assez ambitieux. Et je dois vous dire que je n'ai aucune satisfaction d'avoir pris, car hélas, téméraire.
Quelle est votre idée du bonheur?
Qu'il est beau le malheur qu'on a, qu'il est laid le bonheur qu'on veut, dit Arthur Rimbaud.
Bonne idée du malheur dans ce cas.
Vice-versa.
Le rire de François Michel en 1983 sur France Culture. Quelle importance il a eu pour vous, ce musicologue, pianiste?
Touche à tout, oui, touche à tout. Et musicologue, géographe, il a quand même commencé à faire un atlas historique de France, des provinces de France, cartographié, tout ça. Bah, c'était un homme extraordinaire qui il a eu une grande influence pour moi parce que d'abord, il a été un peu mon professeur de musique. Il m'a fait découvrir tout ce que je ne connaissais pas encore. Tout un répertoire de symphonies que nous jouions à deux pianos, tous les concertos de Mozart, les œuvres de Stravinsky pour deux pianos, des tas de choses. C'est un répertoire que je ne pratiquais pas parce que d'abord je n'avais pas deux pianos et puis au conservatoire on n'avait pas ni de classe pour faire ça. À l'époque, le conservatoire, c'était rue de Madrid, c'était quand même un ancien couvent, voilà, qui était encore un peu moisi. Donc, pour moi, ça donc, a été une ouverture.
C'était l'école buissonnière.
Oui,
alors,
c'était l'école buissonnière, absolument. Et c'était un homme d'une culture extraordinaire, chez qui, en effet, j'ai rencontré des gens merveilleux, comme Gilles Deleuze, Roger Vaillant, l'écrivain, Cassandre, le décorateur. Et c'est lui qui m'a un peu tiré des griffes de mon professeur Jean Doyen, avec qui je ne faisais aucun progrès. Et il m'a dit, vous devez travailler avec le meilleur professeur de piano, c'est Jacques Février. Et il me l'a présenté et il m'a... Et de là, c'est de là que j'ai commencé à travailler avec Jacques Février, qui a vraiment été mon premier professeur, qui m'a enseigné le style musical, c'est-à-dire on ne joue pas Bach comme on joue Mozart ou comme on joue Beethoven. Toutes ces notions qui ont malheureusement un peu disparu, à mon avis. Je ne veux pas avoir l'air d'un vieux con, parce qu'il n'y a que des jeunes cons qui vieillissent, mais je regrette un petit peu ça.
Vous êtes d'accord avec sa devise? Moi, je la comprends un peu comme le mot d'Albert Camus. Hein. En gros, c'est ajouter au malheur du monde que de mal nommer les choses.
Oui.
Ça pourrait être la vôtre?
Oui, oui, bien sûr, parce que mal nommer les choses, c'est... Mais des fois, on les nomme mal parce qu'on ne veut pas les nommer.
La musique qu'on entendait, c'était « Je », dirigé par Pierre Boulez.
Oui.
C'était le New Philharmonia Orchestra en 87. « Je » de Debussy, c'est un poème dansé. Hein, il est question d'une balle de tennis perdue.
Oui, trio amoureux.
C'est une œuvre qui n'est pas très démonstrative, très élégante et qui était très importante pour Pierre Boulez. Je vous parle de lui puisque
oui.
Vous l'avez bien connu.
Ah bah, oui, ça a été
avec Pierre-Laurent
Hénard. Ça a été mon maître, oui, je peux dire aussi. Oui.
Vous avez été pianiste de l'ensemble intercontemporain. Pour lui, jeu, c'était très important dans la définition de la forme parce que, disait-il, c'est une forme qui se renouvelle constamment. C'est ça qu'apporte Debussy?
Ah oui, parce que alors au niveau formel, il a inventé parce que il a refusé les formes académiques, la forme sonate, la symphonie, bien que certaines de ses œuvres peuvent se on peut les rapprocher d'une certaine forme académique, mais jeu par exemple, c'est aussi un extraordinaire une extraordinaire œuvre au niveau de l'orchestration. C'est une orchestration mystérieuse et en même temps claire et tout à fait nouvelle dans l'emploi des registres, des instruments.
On a beaucoup rapproché Debussy de la peinture et notamment des impressionnistes.
Des impressionnistes, oui.
Bah d'ailleurs, c'est le choix de ce coffret Harmonia Mundi. On voit une reproduction de Monet, aussi Vuillard.
Oui, bon, mais il y a aussi Odile Rodon. Hein, symboliste, parce que... Voilà. Mais Debussy, il est symboliste avant d'être impressionniste. Alors bien sûr qu'il aime il aimait Monet, il aimait beaucoup de Redon. Je crois qu'il avait même une gravure que Redon lui avait offert. Mais il se battait contre l'impressionnisme. Et il disait que il parlait des interprètes, il disait tous ces interprètes qui noient ma musique dans la pédale pour mieux l'égorger. Ben c'est dit. Et c'était ça, c'est-à-dire qu'on noyait sa musique pour lui donner ses effets impressionnistes qui étaient en rapport avec la peinture.
La matière, c'est le point de départ. On doit avoir le plus grand respect pour la matière. C'est elle qui dicte et qui impose l'œuvre. Comme avec la céramique, c'est la matière du vase qui m'a dicté ce qu'il fallait faire, qui m'a imposé ses lois. Moi, je fais nullement de la fantaisie. Je travaille dans une très discipline très, très, très sévère. Et très, très serré.
Lorsque vous faites de la peinture, vous partez d'une toile vierge?
Oui. Non, jamais, jamais. Jamais d'une toile qui sort de chez les marchands de couleurs. Je provoque des accidents, soit en nettoyant les broches, soit en faisant une tache de couleur ou une forme, n'importe quel accident, quoi. Comme je fais un dessin, je prends un morceau de papier, je commence les froisser comme ça, n'est-ce pas, les passer dans mes mains, en les froissant, en les mouillant, etc. Moi, je parle toujours du choc. Moi, vous faites un trait quelconque, moi, je parle de ce trait, alors vous y rajoutez encore un nouveau trait, c'est comme cela. C'est comme on posit, c'est comme je vous ai dit, un mot qui vous entraîne la pensée. Ce n'est pas, on ne commence pas par la pensée. C'est le mot qui vous entraîne, qui vous amène les pensées qui vous viennent.
Juan Miró, à propos de sa peinture, c'était pour la RTF, émission couleur de ce temps, en 1950.
Je suis désolé de vous reprendre, mais là, vous faites, surtout avec les éléments de Catalogne en ce moment, vous dites Juan, alors que c'est catalan, c'est Joan, Joan Miró. Attention, parce que vous allez avoir des ennuis avec Puigdemont après.
Vous comprenez ce qu'il dit, pour l'interprète que vous êtes, qu'est-ce que c'est provoquer le choc, Alain Planès?
Ah oui, provoquer le choc, j'imagine, dans la création, c'est important. Dans l'interprétation, c'est peut-être pas aussi fort. Mais dans l'interprétation, il y a des chocs qui vous arrivent quand vous jouez, et vous ne les avez pas décidés. Vous ne les avez pas. Ils arrivent d'eux-mêmes. Ça, c'est un choc. C'est-à-dire, et ça, c'est un grand bonheur quand on a joué la même pièce pendant mais des centaines de fois. Et un jour, vous ne savez pas pourquoi, hop, vous faites une chose à laquelle vous n'avez jamais pensé ou que vous n'avez jamais ressenti. Alors ça, c'est des chocs qui sont un peu me font un peu penser au choc de Miró. Mais le sien, c'est le choc de création. C'est-à-dire, il part de... J'ai eu la chance de le voir dessiner une fois, quand j'habitais chez lui, parce qu'il était âgé, et il avait 84 ans, et il a pris un bout de carton, parce qu'il recevait toujours des cadeaux de partout, sa femme laissait toujours des cartons dans l'entrée, et il a pris son crayon, qui était un crayon normal, il l'a pris avec son poing comme ça, c'est-à-dire il a fermé son poing, et là il s'est mis à tracer des traits sur ce carton, mais avec une telle force que ça m'a bouleversé. C'est-à-dire, j'aurais jamais pensé voir un homme qui était très petit, qui était minuscule. On avait l'impression qu'il allait tomber. Et d'un seul coup, son geste avait eu un... Ça a été un choc. Voilà, là, j'ai eu un choc. Et je comprends le choc qu'il explique. C'est-à-dire, il part d'un trait et après, voilà, ça évolue sur une œuvre.
On vous retrouve au piano, Alain Planès, pour jouer Debussy. Nous n'irons plus au bois parce qu'il fait un temps insupportable.
Thank you.
Alain Planès, Debussy, Nous n'irons plus au bois, c'est tiré des images inédites une composition de 1894. Comment définir l'humour de Debussy et le sens à accorder à cette citation d'une comptine populaire que tout le monde connaît, mais qui apparaît peut-être...
Qui a une connotation...
Pas si enfantine et pas si
innocente. Pas si enfantine, non, pas du tout même. Ça veut dire nous n'irons plus au bordel, parce que c'était sous Louis XIV, il avait interdit les bordels, et les bordels avaient cette particularité d'avoir une enseigne avec des feuilles de laurier. Donc voilà, c'est...
Mais alors, parce qu'on coupait, on coupait les lauriers aussi les lauriers. Pour un mariage.
Oui, c'est ça. Sûr. Bon, évidemment, il a pris le thème de cette mélodie, qui est quand même merveilleux, de simplicité et de joie, et de, hein, même si on ne va plus...
Puis elle est très belle cette phrase-là, puisque vous le citez, les lauriers sont coupés.
Sont coupés, oui, et oui.
Elle avait inspiré la nouvelle d'Édouard Dujardin, oui. Dont on dit que c'est le premier monologue intérieur.
Du reste, ces images oubliées qu'il n'a jamais publiées, il y en a une qui est dédiée à Yvonne Lerolle, qui était la fameuse, elle était pianiste, il était très amoureux d'elle. Et dans ces trois images, il cite, il indique... Un texte qui est très rare chez lui. Il n'a plus jamais réécrit des choses un petit peu drôles comme ça. Dans ces images oubliées, la deuxième pièce qui est une sarabande qu'il va reprendre pour le piano, son cycle de piano. Il la reprend, la transforme un petit peu. Il l'intitule dans le mouvement d'une sarabande, c'est-à-dire avec une élégance grave et lente, même un peu vieux portrait, souvenir du Louvre, etc. Donc, vous voyez, il y a un côté Eric Satie, et je pense que c'est l'époque où il fréquente Satie au Chat Noir. Donc, je pense que l'humour d'Adaïs de Satie l'a influencé à ce niveau-là.
Oui, il y a tout un sens de la littérature qui est manifeste dans les titres qu'il est capable de trouver.
Mais par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de l'intention dans sa musique, enfin des titres qui nous donnent une... Il y a quand même...
Les pas dans la neige, par exemple,
oui, c'est magnifique. Oui, les pas dans la neige, oui, bien sûr. Mais dans tous les préludes, il a écrit le titre à la fin du morceau, entre parenthèses, avec des guillemets. Donc, c'est une suggestion. Voilà, vous parliez de suggestion tout à l'heure. Dans sa musique, là, c'est une simple suggestion d'un titre, mais c'est à vous aussi d'imaginer tout à fait autre chose. Et ça, aucun compositeur l'avait fait avant. C'est déjà un concept, c'est déjà presque de l'art conceptuel à la Joseph Beuys.
C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles.
Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles.
Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus.
Comme on est seul ici, on n'entend rien.
Il y a toujours un silence extraordinaire.
Un silence extraordinaire. Une fontaine dans le parc Péléas et Mélisande de Claude Debussy, c'est Stéphane Degout et Elena Tsalagova, l'orchestre de l'Opéra de Paris sous la direction de Philippe Jordan. C'est, voilà, c'est un spectacle présenté à l'Opéra de Paris en 2012 et que vous pouvez voir, parce qu'il est capté en DVD par Philippe Bézia. C'était une mise en scène de Bob Wilson qui tirait vers l'épure japonaise.
Comme d'habitude.
Oui. Ouais. Pour cette année du centenaire Debussy, il n'y a qu'une seule nouvelle production de Péléas et Mélisande. C'est dire quand même que ça reste un opéra, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait un opéra, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a des airs comme ça qui se détachent. Ça reste une œuvre un peu difficile qui continue à diviser.
Je ne sais pas, c'est quand même une œuvre bouleversante, enfin, de musique, de poésie. Alors peut-être, en effet, ce n'est pas un opéra, c'est presque déjà du théâtre musical avant. C'est-à-dire, il a le génie de la prosodie, Debussy. On le voit bien dans ses mélodies. Là, je viens d'enregistrer avec Stéphane Degout, justement, un disque de mélodies de Debussy pour Harmonia Mundi, Les Mallarmé, Les Verlaines. Il a le génie de la prosodie. C'est-à-dire que là où, par exemple, Fauré va être beaucoup moins fort à ce niveau-là, Debussy sait. Et donc, dans Péléas, c'est une sorte de... On sent que le support est musical, que la musique est là, mais comme un support qui va à travers les mots. C'est-à-dire que les mots sont pris dans ce flux musical et ça forme un tout. Alors c'est peut-être ça qui est un peu déroute, évidemment, les spectateurs. Évidemment, le texte de Maeterlinck, il est un petit peu... il peut maintenant, avec le recul, il peut paraître un peu... paraître à sourire un peu.
Il fait beaucoup sourire. Donc, le réalisateur de cette émission. Mais... Je trouve que le texte est ridicule.
Oui, bon, il faut le prendre au sens symbolique, voilà.
C'est extrêmement symbolique.
Oui. Ben, je ne sais pas, oui, je me demande même si on célèbre vraiment le centenaire de la mort de Debussy. Aussi bien en France qu'en Europe, je ne sais pas. Je ne suis pas informé, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une des choses primordiales des opéras ou des organisateurs de concerts.
On peut dire ça.
Vous êtes d'accord, hein ? Oui.
On peut dire ça. Merci Alain Planès, Continent Musique.
Bah merci à vous.
Touche à sa fin. Je rappelle que pour célébrer l'anniversaire, on peut se tourner vers ce coffret Debussy, l'œuvre pour piano, qui est bien édité chez Harmonia Mundi. Et puis il y aura une série donc de récitals l'intégrale, à la Maison de la Radio.
L'intégrale.
Debussy, voilà, les 9, 10 et 11 mars. Et puis le 25 mars, vous jouerez avec des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'occasion du centenaire exact de la mort de Claude Debussy. Et puis je signale qu'il y a ce film portrait réalisé par la musicienne Sol Ray, Alain Planès, l'infini turbulent, qui sera projeté le samedi 10 mars à 16h à Radio France. C'est gratuit et ouvert à tous. Je recommande le film. Et puis, bien sûr, je signale toujours dans cette actualité Debussy un essai de Philippe Cassard qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, qui est passionnant. Ou encore le Debussy Day, ce sera à la salle Cortot le 25 mars. On se quitte avec Jonathan Fitoussi et Clément Ourrière, Espace timbré. C'est un disque qui paraît ce début mars chez Versatile. Thank you. Labyrinthe, Jonathan Fitoussi et Clément Ourrière, extrait d'Espace timbré, un disque qui paraît ce début mars sous le label Versatile. Et Jonathan Fitoussi, que vous avez peut-être croisé Alain Planès quand vous étiez avec Xavier Veillant à la Biennale de Venise. Ils seront tous les deux réunis à l'affiche du prochain festival Variation qui se tiendra à Nantes du 10 au 18 mars. Variation, ce festival de musique pour piano et clavier au sens très très large. On entendra du Debussy par Simon Greitchi, le pianiste de jazz Dan Tepfer, Eric Satie par le marathonien Nicolas Horvath qui jouera l'intégrale des pièces pour piano de Satie, et puis aussi Charlemagne Palestine ou encore Yuichi Sakamoto qui d'ailleurs sera prochainement l'invité de Continent Musique.
Ok.
Toutes les informations et la programmation musicale sont à retrouver sur la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous recevrez tout. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, réalisation Olivier Guérin, à la prise de son ce soir Victoria Asper et Dali Yaha. Merci à Annie Lozana Delina et Antoine Vuillose de la discothèque de Radio France. Les programmes continuent sur France Culture. Excellente soirée à chacun.